Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement, et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce 25e épisode, je voudrais poursuivre notre conversation d'hier. Pour rappel, vous dites que la situation financière précaire de la France conduit à la perte de souveraineté et que la seule solution, ce sont des réformes structurelles qui passent par une remise en cause radicale du modèle social de la France. Alors, nous en étions à la Révolution française déclenchée selon vous par un problème de gestion budgétaire et d'endettement de l'État. On comparait ça à la situation d'endettement actuelle. Pourtant ici, c'est différent. Ce sont des institutions internationales, pas des États qui détiennent la dette de la France.
Oui, en théorie, mais ça revient au même. Vous avez vu le spectacle des dirigeants européens, dont le dirigeant français, quand Donald Trump a voulu renégocier les droits de douane. Au bilan, au final, on a eu une augmentation de 15%, mais contre la condition de s'engager, pour les Européens, à investir 600 milliards d'euros, je crois, aux États-Unis. Et ça, il est là le vrai scandale. Trump fait ça sans arrêt, il fait des deals et il échange une augmentation plus faible des droits de douane que ce qu'il avait promis en échange de promesses d'investissement direct, ce qui est quand même pas mal sans précédent. Mais dans le cas de l'Europe, ça veut dire aussi qu'on promet de désinvestir des fonds, probablement privés, des pays européens, dont la France, ce qui veut dire en gros s'engager à promettre moins d'emplois à vos populations, moins d'innovation, moins de création de richesses. Et ça ne dérange pas l'État. Parce que des droits de douane plus élevés, eux, ils auraient touché les entreprises françaises, donc leurs profits, donc leurs impôts, de façon beaucoup plus immédiate. Les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire l'accaparation de la richesse annuelle par l'État, sont censés allouer les richesses et les investir de façon plus judicieuse, et surtout avec une vision beaucoup plus long terme que le secteur du privé. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Il n'y a plus aucune vision à terme. L'État, c'est comme s'il avait une vision beaucoup plus court terme qui est celle du bouclage budgétaire et du déficit qu'il va faire comme depuis 40 ans par rapport au privé qui, lui, aurait une vision plus stratégique et long terme. Donc, on a bien des discours qui, eux, disent le contraire, mais ça, ça n'a rien à voir avec la réalité.
Comment en est-on arrivé là ?
D'un point de vue économique, les politiques ont progressivement pillé les ressources de l'État régalien afin de nourrir les appétits insatiables de l'État boutiquier.
C'est-à-dire ?
La justice, la police, l'armée, par exemple, pour ne citer qu'elles, ont un énorme besoin de moyens. D'accord ? On se souvient tous du soi-disant dividende de la guerre froide dans les années 90-2000 et qui explique qu'on soit tombé à un moment à un budget de la défense qui équivalait à 1,5-1,6% du PNB, ce qui est complètement incroyable. Et on a eu ça pendant 30 ans. Mais évidemment, le régalien, c'est aussi, en tout cas de mon point de vue, l'éducation, la santé, l'investissement dans la technologie. Et tout ça, ça souffre. En revanche, l'État boutiquier, c'est-à-dire celui qui vise à satisfaire les besoins en consommation des électeurs, à lui, tout ou presque a été sacrifié.
L'État boutiquier, qu'est-ce que c'est ?
L'État boutiquier, c'est ce qui fait tourner la boutique au jour le jour. Et plus l'État boutiquier s'empiffre, plus la souveraineté s'en va. C'est par exemple être à la tête de la mairie de Paris et employer 55 000 fonctionnaires. C'est-à-dire davantage que les 30 000 employés de toutes les préfectures de France. Faire tourner la boutique, c'est ne pas toucher au remboursement des tickets restaurants, ne pas vouloir toucher aux retraites, ne pas toucher aux primes de Noël, ne pas toucher à tout ce qui rend le client content. En revanche, l'humiliation quotidienne face aux États-Unis, l'incapacité d'aligner 200 chars face aux 3000 chars russes, quand on dispose d'un PNB de plus de 3000 milliards d'euros, être incapable d'envoyer des astronautes dans l'espace ou sur la Lune, les niveaux de l'éducation nationale qui s'effondrent, à part, naturellement, ceux des enfants des classes dirigeantes, la précarité médicale dans la France périphérique, les fondateurs des startups innovantes qui s'exilent, les mêmes startups qui cherchent à vendre le plus vite possible et privent ainsi l'économie française de ce qu'on appelle les licornes, tout ça, c'est la souveraineté ou l'indépendance nationale qui s'en va, mais l'État boutiquier, lui, il n'en a cure.
Pourquoi ?
Quand l'État devient trop gros, il commence à se ponctionner, à se fragmenter en une série d'intérêts particuliers. On a les fonctionnaires, les retraités, les associations. Et au bout d'un moment, les représentants de la nation, ils cessent de travailler pour la nation qu'ils sont censés représenter. En fait, ils œuvrent pour leur parti et donc pour leur clientèle. Ce que les députés ne comprennent pas, c'est que l'économie n'est pas un jeu à somme fixe. La vraie richesse, c'est donc pas les soi-disant richesses qu'il faut découper en petites ou grosses tranches comme une pièce montée. C'est un environnement propice à la création de richesses, c'est-à-dire un cadre juridique, réglementaire, éducatif, universitaire, fiscal, qui encourage l'innovation, l'investissement, l'entrepreneuriat, donc de plus en plus le contraire de ce qu'on a.
Mais si vous transformez trop radicalement le modèle social, n'y a-t-il pas un risque de la fin de la paix sociale qui n'est évidemment pas propice au retour de la souveraineté?
Ne nous méprenons pas. Je ne parle pas de transformer le modèle socio-économique français en celui de l'Utah ou du Texas. Hein. Pourtant, les gens vivent très bien d'ailleurs. En Utah et au Texas, c'est des États extrêmement innovants, à la pointe de la technologie, de l'innovation, avec des taux de croissance extraordinaires. Et aussi des taux de chômage quasiment nuls. Donc je ne parle pas de me remettre en cause l'identité, l'histoire, quand même assez étatique, de la France. Je parle de faire des vrais changements radicaux, les plus importants depuis la Libération. Je parle en fait de remettre à plat les dépenses de l'État et de rendre l'État responsable de ses dépenses, un État qui dépense mieux l'argent qu'il prélève. Prenez n'importe quel secteur, éducation, santé, dépenses sociales, et les sommes engagées année par année sont fabuleuses. Or, le retour sur investissement est parfois mauvais, voire très mauvais, mais surtout il est de plus en plus mauvais. Si l'argent ponctionné par l'État était parfaitement optimisé, que chaque euro pris par l'État dégageait une rentabilité meilleure que celle des acteurs privés, bah, la France serait le pays le plus riche du monde. Et ça n'est pas le cas. Donc, j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à lire ou étudier Ivan Illich. Il appelle ça la contre-productivité. C'est l'idée qu'il y a toujours un point à partir duquel les administrations détruisent de la valeur et finissent par travailler pour elles-mêmes et non plus de façon à remplir leurs objectifs initiaux, ceux pour lesquels elles ont été créées. En France, nous sommes dans cette zone rouge depuis très longtemps.
Pourquoi, comparé à d'autres pays européens, une telle difficulté à entreprendre des réformes ?
C'est évidemment une excellente question. Notre modèle socio-économique, en fait, c'est parce que c'est pas un modèle économique qui devrait tenir du rationnel, mais c'est une religion, ce qui est du ressort de la foi. Et l'impôt, je dirais, ça serait un peu son saint crème. Le modèle social, avec le temps, il a perdu ses objectifs initiaux. L'égalité sociale, l'assistance des plus démunis, etc. L'un des meilleurs exemples, c'est la retraite. Quand la retraite à 65 ans est généralisée, à l'époque, ça concerne d'ailleurs avant tout les hommes à cette époque, puisque le taux d'emploi féminin était bien inférieur à celui au taux d'emploi masculin, mais l'espérance de vie, si ma mémoire est bonne, était aux alentours de 70 ans. Ça voulait dire que quand l'État, quand quelqu'un entamait sa retraite, il allait en moyenne payer pour 5 ans les gens qui prenaient leur retraite. Maintenant, avec l'allongement qui évidemment est extrêmement positif de l'espérance de vie, qui s'approche une moyenne entre femmes et hommes à pas loin de 80 ans, eh bien on a en fait 20 ans, voire 18 ans de retraite en moyenne. Et évidemment, cette moyenne, elle est beaucoup plus élevée pour ceux qui nous coûtent beaucoup plus cher en retraite, c'est-à-dire les classes socio-économiques avec des revenus historiques, donc des cotisations bien supérieures pendant leurs 40 années de cotisation, je ne sais plus quel est le chiffre actuel. Bon, donc, ça ne marche pas. Partout en Europe, les âges de la retraite sont relevés. Sauf en France, où je sais qu'on essaye depuis 30 ans, on a réussi à le bouger de 2 ans et ça vient d'être suspendu. Ça fait 20 ans que les gouvernements se cassent les dents sur la réforme des retraites. Dans les pays nordiques, on va franchir bientôt les 70 ans comme l'âge légal. Et ça va arriver dans pas longtemps. Mais en France, on n'y arrive pas. C'est complètement tabou. Pourquoi ? Ben, encore une fois, l'idéologie. On est dans le domaine de la foi et pas du rationnel. L'État ne peut pas être à la fois thaumaturge, c'est-à-dire soigner tout, et responsabiliser ses ouailles. Le résultat, c'est la dette, la détérioration des services publics, un nombre de fonctionnaires qui n'arrête pas d'augmenter, un ratio actif-inactif qui continue à se détériorer d'une façon catastrophique. Et la conséquence de tout ça, ce sont des centrales nucléaires qu'on ne remplace pas, du gaz russe que l'on achète toujours, même si ça fait 3 ans qu'on fait des discours demandant à augmenter les sanctions, et un musée du Louvre qu'on n'arrive même plus à garder et à protéger contre des cambrioleurs amateurs du dimanche, des parcs d'hélicoptères et de chars dont la moitié ne peut pas fonctionner, des tribunaux engorgés, des prisons vétustes, surchargées, des douanes qui sont même pas capables de faire face aux colis illégaux de Chine. Ça n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'idéologie. Nous en sommes arrivés à un point où les deux objectifs, un modèle social que le monde entier nous envie et l'indépendance nationale, ces deux objectifs sont devenus absolument contradictoires.
Donc il n'y a pas de solution ?
Je pense que si, mais il faut du courage, ce qui évidemment a fait beaucoup défaut à nos gouvernements. En fait, il existe en ce moment une sorte d'alignement des astres. On a la guerre en Ukraine qui nous a révélé l'état de délabrement de la défense française et des défenses européennes en général, et aussi l'incroyable état de dépendance énergétique de l'Europe, notamment à la Russie. On a aussi une administration américaine, depuis janvier, ou plutôt la fin janvier, qui est certainement la plus anti-européenne de l'histoire, qui, depuis 9 mois, se permet de nous donner des leçons sur l'immigration, sur la liberté de parole, sur la tolérance, sur la fiscalité, et ce qui nous révèle à quel point la création de richesses, au passage, est essentielle pour maintenir sa souveraineté dans un monde tellement plus dur et agressif. Nous avons ensuite l'agressivité commerciale de la Chine, tous azimuts. La Chine qui quasiment considère l'Europe comme une sorte de zone de déstockage de ses excédents industriels. Et enfin, nous avons aussi les opportunités, la transition écologique, la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, pour reprendre, avec la guerre en Ukraine et, évidemment, la menace russe sur les 5, 10, 20 prochaines années, tout ça, ça représente une opportunité industrielle colossale. Et c'est la même chose pour la transition écologique, la même chose pour la révolution de l'intelligence artificielle. Or, rien qu'avec ces occurrences, une immense opportunité s'ouvre à un gouvernement courageux et capable de faire des réformes. La relance de l'investissement dans ces différents secteurs sont 3 opportunités qui conduisent à la restauration de la souveraineté. Mais pour cela, il faut évidemment défier ce que j'appellerais une idéologie mortifère et qui maintenant indéniablement conduit à la ruine. Et ça veut dire arrêter la gabegie, baisser la pression fiscale afin de libérer la société et l'économie, et ce qui passe évidemment par un recentrage de l'État sur ses fonctions essentielles.